chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane, 542-8111. 542-8111.
7h57, Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
Deux causes qui, en fait, deux sujets qui sont intéressants. D'abord, ce qui s'est passé en fin de semaine dernière dans un party qu'on a découvert totalement par hasard avec nos collègues qui faisaient du nez rouge, qui ramenaient du monde d'un party qui se passe près de la zone portuaire où il y a plein d'entreprises mélangées. Et il y a des pertes de connaissances successives. On pense que des jeunes femmes ont été droguées à leur insu. Et ça a toute apparence de ça. Et là, il y a une plainte qui a été déposée hier en fin de journée aux policiers de Saguenay qui vont enquêter sur 3, peut-être même 4 cas d'intoxication involontaire. Alors, on est pas mal sûr chez ces femmes-là qu'on s'est fait mettre du GHB dans nos verres. Et c'est là qu'on entre avec la justice, parce que le GHB, ça a l'air d'un dossier compliqué en justice.
Incroyable. Beaucoup, beaucoup d'allégués. On voit ça, ça fait des années. Là. Je pense même que j'étais à l'époque du cégep secondaire, puis ça circulait déjà qu'il y avait ce genre d'intoxication-là, puis des gens qui se faisaient mettre quelque chose dans le verre, puis qu'on parlait de la fameuse drogue du viol, puis le GHB. Donc, il y a eu beaucoup de cas qui sont signalés aux policiers. Très peu aboutissent à des accusations. On a vu il y a quelques années, mais c'était dans le cadre d'un party où finalement tout le monde a admis qu'il l'avait consommé, puis ça avait mal viré, etc. Il y a eu des accusations qui avaient été déposées sur celui qui avait fourni le GHB. Mais de dire que quelqu'un en cachette a mis quelque chose dans votre verre, j'ai pas souvenir d'avoir vu d'accusation comme ça. Ça existe, cette infraction-là. Oui. Là, c'est d'administrer une substance délétère. Donc, quelqu'un qui vous empoisonne ou qui vous drogue à votre insu, c'est une infraction. Et dites-vous que la journée où on risque d'en attraper un et qu'il y a des accusations, ça va être traité très sévèrement pour les tribunaux. Mais c'est excessivement difficile, premièrement, parce que c'est difficile à détecter pour même la victime. Donc, souvent, ces personnes-là, ça dure que quelques heures détectables dans leurs organismes. Donc, lorsque les personnes sont amenées à l'hôpital, puis ils vont pas toujours immédiatement, parce que souvent, justement, ces personnes-là sont soit sans connaissance ou des choses comme ça, vont être amenées, raccompagnées chez eux ou vont s'endormir dans un party où est-ce qu'ils sont. C'est seulement que le lendemain qu'on se met à se poser des questions. Voyons, ça marche pas du tout avec ma consommation, etc. Mm-hmm. Mais aussi, souvent, c'est mélangé avec l'alcool. Fait que les personnes peuvent avoir l'impression que c'est dû peut-être à une consommation d'alcool plus importante. Donc, le temps qu'on les amène à l'hôpital pour passer les tests, c'est plus détectable dans le sang ou dans l'urine. Donc, c'est très difficile de faire la preuve d'une part qu'il y a eu réellement une intoxication au GHB et ensuite d'enclencher tout le processus.
De savoir c'est qui, mais là, ça te prend un témoin, ça te prend une preuve sur vidéo.
Effectivement. Dans les bars maintenant, on sait que les caméras de surveillance sont un peu partout puis très, très, très efficaces. Là, dans les dossiers, on voit des bagarres dans des bars ou des vols de ou des choses comme ça. Mm-hmm. Les systèmes de caméras sont très performants maintenant dans les bars. Donc, je pense que c'est plus rarissime que ça doit se produire directement dans le verre au bar, comme on peut s'imaginer la scène classique, là, parce qu'effectivement, si une personne, on le voit en train de mettre de quoi dans le verre, c'est assez facile de remonter à lui, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est là au grand jour en train de dévisser une bouteille puis de verser ça dans le verre. Donc, c'est fait somme toute subtilement. Voyons voir qu'est-ce qu'il a réellement mis dans ce verre-là.
Si on n'a pas de preuve toxicologique, il peut dire « Oh, je mets de l'eau ».
Effectivement, c'est très compliqué d'arriver à monter un dossier qui peut aboutir à des accusations. Dans certains cas, on a la preuve qu'il y a eu du GHB, mais on n'a pas la preuve qu'on n'est pas capable de relier quelqu'un à l'infraction. Dans d'autres cas, on n'a même pas la preuve qu'il y a eu du GHB. On a juste tous les soupçons du monde sans pouvoir aller plus loin. Donc, à chaque mois, à chaque, je dirais quasiment semaine, là, il y avait même... Mais il y a beaucoup aussi d'intoxication volontaire au GHB. C'est malheureusement une drogue qui est très consommée, qu'on voit régulièrement là, dans des perquisitions, des choses comme ça, dans des dossiers de faculté affaiblie, donc des personnes qui l'ont consommée volontairement. Mmh. Puis les effets là, s'apparentent beaucoup à celui de l'alcool. Donc souvent, les arrestations sont faites, puis on se rend compte qu'il n'y avait pas d'alcool, mais plutôt du GHB. Donc c'est quelque chose qu'on voit, somme toute, régulièrement, là, que des personnes allèguent ça, mais on voit pratiquement jamais de dépôt d'accusation dans ce genre de
dossier. Il y a des policiers, des gens dans le milieu de la santé qui m'ont dit à un moment donné, écoute, il y en a beaucoup là, qui aboutissent à l'urgence, qu'on traite, qu'on se doute que c'est du GHB, puis qui nous disent, ah, ça a été mis dans mon verre, quelqu'un a mis ça dans mon verre, mais quand on les questionne, puis on les re-questionne, puis on dit, ben là, faut pas que tu fasses de fausses déclarations, finissent par nous avouer, oh, non, je l'ai consommé par moi-même, mais je veux pas que mes parents le sachent.
Il y a une... un an ou deux, il y avait un médecin ici qui était responsable de la santé publique, là, qui était en charge de tenir les statistiques. Et il disait qu'il y avait, bon, en guillemets, un certain fléau, là, une certaine récrudescence des dossiers d'intoxication au GHB, mais c'était presque dans tous les cas des intoxications volontaires, mmh, au final. Donc, effectivement, oui, dans tous les dossiers, il y a ceux qui se rendent à l'urgence, qui disent, on a sûrement mis de quoi dans mon verre, qui finissent par admettre que c'était ça. Il y a ceux qu'on n'est pas capable de démontrer que c'est du GHB. Il y a ceux que même si on est capable de le démontrer, on n'est pas capable d'avoir du suspect. Ce que je dis pour les services policiers, là, c'est souvent des dossiers très, très, très difficiles à gérer et à amener au dépôt d'accusation.
Mais est-ce que c'est moi qui se trompe ou ça redevient plus à la mode? Parce qu'il me semble que moi, dans mon temps où je sortais dans les bars, là, voilà, peut-être 5-6 ans, on en voyait vraiment moins, là. Dans mon cas, j'ai jamais été face à ça, là.
Effectivement, c'est une drogue de rue beaucoup là qu'on voit pas nécessairement dans les bars, là, dans les dossiers où on voit là, c'est des personnes là, polytoxicomanes, de gros consommateurs qui a peut-être pas nécessairement là des personnes qui fréquentent les milieux des bars ou qui sont un petit peu plus d'argent, des choses comme ça. Là, on parle vraiment de consommateurs qui consomment de la drogue de rue. Ça, je vous dirais que ça a pas dérougi malheureusement là. Moi, dans les 12 dernières années, depuis que je suis avocat, dans beaucoup de perquisitions où on saisit justement des drogues de rue, il y a du GHB. Maintenant, est-ce qu'il y a une recrudescence de quelque chose d'un peu plus in, là, si vous me permettez l'expression, que par ceux qui vont dans les bars puis qui sont sur le party. Peut-être que présentement, c'est le cas puis qu'il y avait eu un certain moment où c'était moins populaire, mais ça a toujours continué d'être consommé par des personnes qui sont prises avec des gros problèmes de consommation.
Mettons que moi, je mets du GHB dans le punch parce que j'ai décidé que tout le monde allait avoir du fun à soir, puis là, je me fais pogner. Je risque quoi?
Oh, tu vas t'en aller en prison, Dominique.
OK.
C'est à ne pas faire. À ne pas faire. Même si on était consenté tout le monde, à ce moment-là, ça demeure quand même du trafic. Hein. Du trafic, là, les gens, ils pensent que non, je faisais juste dépanner mes amis ou c'est moi qui ai fourni la drogue, mais j'en vends pas, j'en ai jamais vendu. Trafiquer, ce n'est pas vendre. Trafiquer, c'est beaucoup plus large que ça.
Okay.
C'est transporter, donner, partager, etc. Tout ça rentre dans le trafic. Donc, même si on est consentant et que tu nous donnes du GHB et qu'ultimement, les policiers viennent intervenir et qu'on fait des déclarations à l'effet que c'est toi qui nous as fourni le GHB, tu serais accusé de trafic. Mais si tu l'as fait à notre insu, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave parce qu'à ce moment-là, c'est administrer une substance délétère et si en plus, il y a eu des conséquences pour la santé ou même une personne pour en décéder, tu risquerais d'être accusé d'homicide involontaire et à ce moment-là, tu risquerais de partir pour de longues années derrière les barres.
Donc, on ne fait pas ça. Ce qui n'est pas le cas avec l'alcool, et c'est ça qui est particulier. Je veux dire, tu peux fournir de l'alcool, puis saouler à la limite quelqu'un, puis s'il y a un problème, c'est lui qui est responsable, c'est pas toi.
Effectivement, parce que c'est pas une infraction de trafiquer, de partager de l'alcool. Même chose avec le cannabis maintenant, donc c'est pour ça que de se partager entre eux, entre personnes, une quantité de moins de 30 grammes de cannabis n'est plus une infraction, mm-hmm, ce qui théoriquement demeure du trafic, mais qui est maintenant légalisé.
Bon, concernant le viol avec du GHB, je me posais la question, parce que je me disais, hey, faut que ton plan, il marche, puis il soit bien monté. Avez-vous déjà vu beaucoup de cas en justice où on a été clairement capable de démontrer que le gars, il a drogué la fille, qu'il l'a ramené chez eux? Parce que, tu sais, mettez ça en contexte, là, faut que tu mettes du GHB sans qu'elle voie dans son verre. Mais là, faut qu'elle tombe sans connaissance, mais rendue chez vous, parce que ça tombe sans connaissance avant, l'ambulance va
partir avec sur ton épaule.
Puis là, faut que tu réussisses, si tu la connais pas, à partir avec, sans que ses chums se doutent de quoi, ou encore t'interceptent ou disent « Hey, tu t'en vas où avec? » Ou « Pas en état. » Puis « Hey, ça doit être rare, là. »
Effectivement. Effectivement. Ou ça serait beaucoup plus dans des cas où de faciliter une date qui était déjà en cours, là.
Oui,
parce que justement,
ça,
vous arrivez avec la fille, vous prenez des verres avec cette personne-là. Là, à ce moment-là, il pourrait avoir la drogue qui est mise, puis personne trouve ça louche que vous êtes en train de quitter avec cette personne-là qui, graduellement, est en train de perdre son jugement puis ses inhibitions, puis qui, ultimement, ça facilite le passage à l'acte. Ça, c'est le genre de dossier qui risque plus de se produire. Très malheureusement, là, on le dit, c'est pas moins grave parce que vous connaissez la personne, mais c'est plus ce genre de dossier-là, parce que sinon, effectivement, c'est plus dans des parties. Parce que si vous arrivez au bar, là, comme tu le dis, Dominique, là, d'arriver, de mettre ça dans le verre, puis là, elle commence à être mêlée, puis là, tu l'embarques sur son épaule, puis on part avec moi et mon ami pour l'embarquer dans le char, partir avec. Là, ça commence à faire un scénario de film beaucoup plus que ce qui se passe dans...
C'est parce que c'est un peu la légende urbaine, hein, tu sais, laisse pas ton verre traîner quand tu vas danser, là, tu vas te faire droguer un inconnu qui va te ramasser, mais là, c'est parce que oui, mais tes amis aussi vont voir qu'il y a un inconnu qui te ramasse, là, tu sais.
Let's go. La plupart des cas d'intoxication présumée, là, c'est beaucoup plus la personne se sentait mal, puis c'est ses amis qui vont là, à ce moment-là quitter avec elle, puis venir dire hey, ça marche pas, son état marche pas avec ce qu'on a consommé, va l'amener à l'hôpital. Beaucoup plus que on a perdu notre ami avec des inconnus, probablement qu'il y a eu du GHB. Là, c'est ce genre de dossier-là. Heureusement. Là,
ça doit arriver.
Ça doit arriver, mais c'est beaucoup plus rare,
mais
heureusement.
Dans le cas d'un party, exemple de maison ou quoi que ce soit, c'est plus facile techniquement parce que les chambres sont à.
Puis là, la personne souvent se sent mal, va rentrer dans une chambre pour aller s'allonger, puis là, c'est là que la personne va arriver après, effectivement, puis qu'il risque d'avoir ce genre d'agression-là. Mais de partir avec quelqu'un dans un bar après l'avoir drogué volontairement, etc., ça commence à faire un plan qui a beaucoup d'étapes là, pour que ça aboutisse.
Oui, effectivement. Terminons avec un dossier particulier, celui de votre collègue, Maître Charles Quentin, qui a réussi à faire tomber des accusations d'ivresse au volant parce qu'il y a une dame qui a été arrêtée et emprisonnée dans l'illégalité.
Exact. Et là, il y a beaucoup d'incompréhension. À chaque fois qu'il y a un dossier, ce qu'on appelle, nous, de charte, qui se gagne, c'est-à-dire qu'il y a de la preuve qui est exclue suite à une violation à un droit constitutionnel, il y a beaucoup de levées de boucliers. Hein. Les gens comprennent difficilement, ils vont dire, non, cette personne-là a été arrêtée pour faculté affaiblie. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer en vertu de quoi maintenant on va retirer les accusations? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la charte, c'est un peu le prix minimum. C'est-à-dire qu'en tant que société, le législateur peut voter un paquet de lois, peut resserrer le code criminel, peut resserrer les règles, peut ajouter des infractions, mais minimalement, ça ne pourra pas contrevenir à la charte. Donc, on ne pourra pas voter une loi qui viendrait dire « Bon, tous ceux qui vont être arrêtés pour vol, eux, ils n'auront pas le droit au service d'un avocat. » Ça, on ne peut pas faire ça parce que c'est prévu dans la charte que vous avez le droit au service sans délai, à l'assistance à un avocat sans délai. Exemple, on ne pourrait pas dire « Les policiers, à partir de maintenant, vont pouvoir arrêter tout le monde dans la rue puis vont pouvoir les fouiller sans aucune espèce de motif. » Non. Parce que c'est toujours un équilibre qu'on essaie de rechercher en tant que société entre liberté et sécurité. Mm-hmm. Donc, évidemment, si on permet aux policiers ou si on permet à l'État de fouiller n'importe qui dans la rue, ben, c'est sûr qu'on a plus de sécurité. Mais on a moins de liberté, donc c'est d'aller chercher le juste équilibre.
Il n'y a rien qui les empêcherait à 8 heures le soir d'arriver chez vous, de cogner, puis de dire bon, ben on fouille
la maison, etc. Et on ne voudrait pas accepter ça en tant que société. On veut, comme je le dis, qu'il y ait un équilibre. Hein? Si vous avez des bonnes raisons de venir fouiller dans ma maison, très bien. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas d'affaires à rentrer dans ma maison. Et c'est de même pour un paquet de règles qui fait en sorte que non seulement les lois doivent respecter la charte, mais l'État, essentiellement les policiers qui sont aux premières lignes, les policiers, dans l'application de la loi, doivent aussi respecter les règles. Pas juste la charte. La charte, c'est, comme je le dis, c'est le minimum. Là. On doit minimalement respecter la charte, mais il y a aussi un paquet de règlements. Je vais donner des exemples. C'est pas juste dans des cas de charte là, qu'il y a des dossiers qui vont être écartés ou des accusations qui vont être retirées. Sur des simples constats d'infraction, si le procureur de la ville de Saguenay se rend compte que les constats sont mal remplis, que les règles n'ont pas été respectées, il va complètement retirer l'accusation, puis votre ticket va être annulé. Même chose pour s'il y a un dossier qui est soumis à un procureur pour une histoire, pour un ivresse en maître, exemple. Et on se rend compte que ce qui est prévu dans le code criminel, les délais, la façon de procéder n'a pas été respecté. Le procureur va décider de ne pas porter d'accusation. Donc, si les policiers ne respectent pas les règles, ça risque de faire en sorte que le dossier va être écarté. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense parce que la plupart du temps, c'est les procureurs eux-mêmes qui font un premier filtre puis qui font en sorte qu'ils vont rejeter eux-mêmes les dossiers. Mais dans des cas où des dossiers sont autorisés, puis on se rend compte qu'il y a des droits constitutionnels qui n'ont pas été respectés, où les règles n'ont pas été respectées. Dans ce cas-ci, si on y va par étapes, la cliente de Maître Quentin est arrêtée légalement. Mm-hmm. On l'amène au poste légalement. On respecte les règles, on l'applique de façon correcte. On lui fait passer l'ivresse en maître de façon légale, elle échoue les taux, et à ce moment-là, on est aux alentours de 3h30 du matin, et les policiers, comme Madame pleure, puis qui a dit qu'elle ne veut pas réveiller son mari qui vient de la chercher, ben, au lieu de lui dire « partez en taxi, madame » ou etc., la dame n'est pas en état de désorganisation ni en état d'intoxication. Parce que si elle avait été tellement saoule, si vous me permettez l'expression, qu'elle n'est pas capable de comprendre qu'elle constitue un danger, on aurait pu à ce moment-là considérer qu'on devrait la mettre en cellule le temps qu'elle est grise. Mais là, c'était pas la situation. Madame comprenait très bien. C'est juste qu'elle ne voulait pas réveiller personne dans la nuit. Et au lieu de lui proposer de partir en taxi ou de quitter à pied, à ce moment-là, on l'a mis à cellule à 3h30 du matin. Puis, il n'y a personne qui est allé vérifier, finalement, si elle avait changé d'idée, si vers 5h, 6h, elle désirait appeler. On l'a laissé en cellule. On lui a fait une foule complète, là, la procédure d'écrou, avant de la mettre en cellule. Et on l'a libéré seulement que 5h plus tard. Et c'est à partir de ce moment-là que le bas blesse. C'est que là, le juge a dit, tout a été fait correctement, mais à partir de là, ce que prévoit le code, c'est vous devez être mis en liberté. Et non pas mis en cellule. Mm-hmm. Et là, le juge considère que ces 5 heures-là passées en cellule était carrément une détention illégale. Maintenant, comme dans toute bonne règle, s'il n'y a pas de conséquence au fait que vous ne respectez pas une règle, ben il y a des chances que vous ne le respectez pas. Si sur l'autoroute, il n'y a personne qui faisait du radar, garantie que le monde roulait beaucoup plus vite que présentement. Oui. Mais c'est la même chose. C'est bien beau de dire que les policiers ne peuvent pas enfreindre la charte, mais s'ils enfreignent la charte, il faut qu'il y ait un remède à ça. Il faut que le juge se penche en deux étapes. On doit donc être convaincu qu'il y a une violation à votre droit constitutionnel. C'est le cas, il dit. Détention illégale durant ces cinq heures-là, ça n'avait pas sa place. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire comme remède? Et là, l'accusation qui était portée était celle de faculté affaiblie. On n'avait pas porté le plus de 80 pour une raison que j'ignore, qu'importe dans le dossier. Parce que généralement, ce que le juge aurait fait, c'est que je vais exclure le résultat de l'ivresse en maître. Et maintenant, je vais me pencher à savoir s'il y a des symptômes sur le second chef de faculté affaiblie. Dans ce cas-ci, il y avait juste le chef de faculté affaiblie. Donc, le juge a dit, comme remède, je dois me dissocier du comportement des policiers qui ont violé la charte et les droits constitutionnels de madame, et ça fait en sorte que j'ordonne l'arrêt des procédures sur l'accusation qui était déposée contre elle.
OK. Donc, morale de l'histoire, si on vous emprisonne puis vous êtes même pas tant en état d'ébriété, vous avez une cause. Là. Parce que techniquement, ils sont supposés vous offrir à tout le moins d'appeler un taxi.
Effectivement. Donc, une fois que vous êtes arrêté, les policiers doivent donc vous identifier. Si c'est en matière de faculté affaiblie, évidemment, pas procéder au test, là, mais si vous êtes arrêté pour quelconque raison, on vous identifie. On vérifie ensuite là, si vous voulez donner une version, etc. Une fois ça complété, on doit vous remettre en liberté. Et à partir de ce moment-là, si on décide de vous détenir sans raison, sans cause juste, donc de façon arbitraire, de façon illégale, mais ça peut faire en sorte effectivement que vous allez avoir un recours, tant pour une poursuite, mais tant aussi pour faire en sorte que s'il y a des accusations déposées contre vous, il y a de la preuve qui pourrait être exclue et il y a même des accusations qui pourraient être écartées par le tribunal comme remède à cette violation-là.
OK. Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonne journée, 8h13.
Chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane. Pour contacter Maître Bouliane,
542-8111. 542-8111. On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay. Le show du matin.